Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu. Je suis Antoine Mongeant. Et je suis toujours content et ravi de vous retrouver cette semaine encore une fois pour parler d'actualité du développement de jeu, des coulisses justement de l'industrie du jeu sur tout l'aspect business, développement, les outils, les moteurs, les studios qui se créent, les licenciements, etc. Donc voilà, je signe le podcast qui existe depuis un petit moment déjà et on est maintenant à l'épisode numéro 83 cette semaine. Et donc pour ne pas perdre les bonnes habitudes, comme je vous le dis à chaque épisode maintenant, c'est d'aller noter ce podcast sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Et mettez bien 5 étoiles pour faire remonter ce podcast dans les classements et lui donner un maximum de visibilité. On a également un Patreon hein, qui existe, patreon.com/lcdj, si vous voulez soutenir le podcast, où il y a des dons à partir de 1 euro, voilà, si ça vous intéresse. Il n'y a aucune obligation et tout le contenu est disponible, même si vous n'êtes pas Patreon ou si vous l'êtes. Il y a plusieurs niveaux de donation, mais il y a vraiment zéro différence. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça, parce que je pense que j'ai pas envie de gagner d'argent. C'est peut-être la bonne raison. C'est plus en soutien si le temps passé et si voilà, sur tous les frais, etc. d'achat de matériel pour la création de ce podcast que je fais bénévolement. Donc voilà, ça peut vraiment donner un petit coup de main, un petit coup de pouce pour la création de ce podcast et faire des choses encore plus intéressantes par la suite. Donc on commence tout de suite les news avec comme d'habitude, c'est une série qui continue et puis on va le faire à chaque fois, j'ai l'impression. Et encore une nouvelle annonce de licenciement d'un petit studio qui s'appelle Microsoft, hein, qui est en phase de terminer son rachat d'Activision Blizzard, mais par la même occasion se sépare de 300 personnes dans ce mois de juillet. Donc ils avaient il y a quelques mois déjà licencié plus de 10 000 personnes et là ils continuent avec la suppression de 300 postes. Donc bon, apparemment c'est quelque chose qu'ils justifient d'être nécessaire dans le développement de leur business et dans l'accroissement de leur activité pour recentrer un peu les focus sur les différents besoins qu'il y a au sein de la société. Donc c'est pour ça que ils se séparent à 300 personnes en même temps. S'ils rachètent Activision Blizzard, ils vont se retrouver avec beaucoup plus de personnes à gérer sur le bras très bientôt. Donc voilà, c'est peut-être que temporaire, ces 300 personnes. Il y aura peut-être d'autres licenciements par la suite. Et sinon pour contrebalancer un peu on va dire cette news pas forcément très joyeuse, on a une news plutôt sur l'ouverture de nouveaux studios à travers le monde. Donc il y a Electronic Arts qui ouvre un nouveau studio orienté AAA qui s'appelle Cliffhanger Games, notamment pour développer le projet Black Panther. On a Behavior Interactive qui ouvre un nouveau studio au Royaume-Uni, Behavior Interactive c'est les développeurs de Dead by Daylight qui a été un énorme carton. On a aussi l'équipe de People Can Fly qui ouvre un nouveau studio à Montréal pour étendre toute la production de leur prod AAA. Donc voilà, trois studios, trois ouvertures de studios, sur qu'il y en a d'autres, mais voilà, ça vient contrebalancer un peu sur tous les licenciements. Donc qui dit nouveau studio, nouveau recrutement ou voilà, des gens qui vont peut-être bouger d'un studio à l'autre, mais en tout cas ça bouge dans le niveau de l'industrie du jeu. Eh bien, attaquons aussi, passons à une news suivante sur le qui est un peu qui voilà qui est un peu plus profond. Là, cette fois-ci, c'est pas forcément une news rapide, c'est plus une news sur un article qui est très intéressant sur la gestion des mondes ouverts, en fait, de comment gérer, comment créer un monde ouvert très prenant, très engageant, et ce qui est pas forcément une chose très facile. Et c'est un article qui est paru sur GameIndustry.biz, qui est en fait écrit par le lead level designer de My.Games, Vasily Skobelev, j'espère que je le prononce bien, et qui est le qui nous raconte un peu, ben voilà, les points clés pour ouvrir, pour créer un monde ouvert intéressant. Donc le monde ouvert, c'est un peu comme GTA ou comme le Zelda, hein, Breath of the Wild ou le dernier, Tears of the Kingdom, qui sont des jeux à monde ouvert. Et il y a différentes choses à vraiment prendre en compte. Donc comme les différentes visions du monde, les jeux peuvent être linéaires, ça c'est pas un souci, hein, ce qu'il dit, mais en monde ouvert, il faut que chaque type de monde et une approche différente dans la conception des niveaux. Donc c'est assez technique, c'est assez détaillé. Il y a beaucoup de recherches à faire sur comment on donne une vision du monde sur ce type de monde d'open world, quoi. Donc c'est assez compliqué à le résumer comme ça dans ce podcast. Donc c'est En fait, il y a certains principes à respecter si vous faites un jeu un peu linéaire. Il y a des chemins un peu critiques à suivre. Voilà, je sais pas, si vous faites un Tomb Raider, un Doom, ça reste. Vous pouvez quand même explorer un petit peu des choses, mais il y a quand même un chemin critique à suivre, un chemin principal, quoi, de gameplay qu'il faut suivre. Après, il y a des gameplay un peu non linéaires comme Deus Ex, Dishonored, etc. Où il y a pas vraiment, il y a pas vraiment une linéarité. Les gens peut choisir le chemin qu'ils veulent emprunter. Bon, par exemple, Skyrim, c'est vraiment l'exemple type. Hein. Il y a le chemin, même si c'est un chemin critique, où il y a tellement de façons différentes d'arriver, qu'on peut avoir une expérience complètement différente. En fonction des joueurs, il y a des choses un peu plus compliquées aussi cette vision du monde. Il y a la vérification des compétences, les diversités des points d'intérêt. Donc, tous ces mondes ouverts doivent avoir des points d'intérêt pour offrir une diversité de gameplay pour maintenir un peu l'intérêt du joueur aussi, parce que si ça se répète trop souvent, ça va forcément être un peu rébarbatif et va ennuyer le joueur. Moi, je me souviens d'Assassin's Creed 1 par exemple, c'est un jeu où tous les points d'intérêt c'était un peu toujours la même chose à faire. Après, en plus, ce qui était un peu pénible pour moi, c'était de retrouver ça dans tous les jeux Ubisoft, même quand vous jouez à Far Cry, quand vous jouez à d'autres Assassins, toujours le même système de points d'intérêt à récupérer pour le voir un peu sur la carte, tous les différents spots, après aller explorer chaque spot. Bon, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Bon, après, on passe son temps à faire que ça, on a compris la mécanique, mais si l'intérêt du jeu se limitait qu'à ça, ça devient vite ennuyant. Donc, il faut pas tomber dans ce piège et c'est important de essayer de challenger un peu le joueur à essayer de trouver des points d'intérêt un peu différents, un peu qui changent un peu, qui cassent un peu la routine, quoi. Et après, voilà, il parle des expériences extérieures qui doivent être des sortes de transitions pour aller d'un point à l'autre et comment le gérer avec des événements inattendus, voilà, avec des distances à parcourir qui soient quand même un peu limitées. Il y a aussi tout ce qui est un peu gestion d'espace urbain. Les systèmes de voyage rapides aussi, sur comment rendre les voyages rapides aussi qui fait partie de ce monde ouvert, où il faut par exemple prévoir des façons de voyager d'un point à l'autre un peu de façon flexible, ou même faire payer peut-être ses voyages. Dans les MMO, on a souvent ça, par exemple dans FF14, pour passer d'un endroit à un autre, il faut payer de l'argent, quoi. Et donc, oui, on peut le faire, mais ça a un coût. Donc, le joueur va réfléchir à deux fois avant d'utiliser les voyages rapides, trop souvent. Certains voyages rapides sont gratuits, d'autres payants. Et bien sûr, on retrouve l'essentiel des 3C, hein, qu'on retrouve dans la plupart qu'on apprend rapidement dans les écoles de game design, c'est le personnage, la caméra, le contrôle. Les 3C, c'est caractère, contrôleur, caméra. Donc, qui sont les points essentiels de la conception je veux dire, de n'importe quel jeu, d'un niveau. Et voilà, c'est des choses assez essentielles. L'article est intéressant, je vous mettrai le lien en note de l'émission si vous voulez aller jeter un œil et vous inspirer. Si vous êtes en train de travailler sur un monde ouvert, peut-être que ça pourrait vous intéresser. L'article d'après, c'est Unity qui a posté sur leur blog sur en fait le fait qu'ils aient lancé une nouvelle démo qui s'appelle Happy Harvest, qui est une sorte de comment on appelle ça, Harvester Moon, ou plus connu, peut-être plus récent, c'est Stardew Valley, qui sont un jeu un peu de ferme, mais un peu étendu, avec une gestion de ferme, avec des vaches, des blés, etc. Voilà. Et en gros, c'est une démo de jeu où il y a toutes les sources que vous pouvez télécharger sur la C Store et qui permet justement d'introduire toutes les nouvelles techniques et toutes les nouveautés d'Unity sur l'aspect 2D. Donc, notamment la technique des lumières et d'ombre en 2D avec le nouveau système de rendering, hein, d'Unity qui est là depuis, je dis nouveau, mais c'est vrai que ça fait un petit moment déjà qu'il est là, qui est l'Universal Render Pipeline, hein, l'URP, qui permet d'avoir des choses un peu réalistes en termes de lumière, d'ombre en 2D. Il permet de voir un peu comment utiliser les normal maps pour masquer certains ou ajouter certains détails, comment gérer l'éclairage ambiant, l'utilisation aussi des tile maps. Dans Unity, il y a les tile maps qui sont un système de tiles pour permettre d'optimiser, de faciliter la création des mondes de jeux en 2D. Mais ben, c'est couvert dans cette démo. Les animations des personnages en 2D aussi, en utilisant toutes les nouvelles techniques d'animation en 2D, par exemple l'expression faciale, comment changer les sprites dans les animations. Où il montre aussi comment fonctionne l'outil d'animation par squelette, qui est intégré dans Unity, qui remplace un peu Spine. Donc, pour ceux qui connaissent les animations Spine, Unity a un outil maintenant maison qui permet de gérer ça. Il passe aussi en revue les effets spéciaux en 2D, donc en utilisant VFX Graph ou le Shader Graph d'Unity pour faire les effets de particules, de météorologiques, les shaders, tout ce qui est post-traitement. Donc, c'est une démo assez complète. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi évidemment les conseils, les bonnes pratiques sont utilisées de façon correcte la 2D dans Unity. Donc, je vous recommande, hein, si tu en travailles sur des projets 2D, d'aller jeter un œil sur cet article, de télécharger peut-être la démo. C'est compatible avec Unity 2022 LTS, je crois. Et puis, bon, ça a bien marché sur les autres versions d'Unity aussi. À tester. Et c'est gratuit, évidemment, je ne l'ai pas dit. Et il y a aussi un petit e-book gratuit pour en vous inscrivant, en laissant votre email. Je crois que vous pouvez télécharger un e-book gratuit d'Unity qui parle de tout le gamme art 2D, les animations, le lightning et tout ça pour les artistes. Donc, allez jeter un œil au lien que je mettrai en haut de l'émission. Autre news aussi rapide. Là, ça fait un petit moment que je n'avais pas couvert les sorties de moteurs de jeux. Donc là, on a pas mal de nouveaux releases de moteurs là, qui sont arrivés. Donc, il y a certains dont je n'ai jamais parlé. Non, pour être honnête, je n'en ai jamais entendu parler même avant. Par exemple, le Flax Engine 1.6, qui est un moteur de jeu qui a l'air assez sympa, open source, avec le support de .NET 7, le Physics 5, le support d'iOS aussi, macOS ARM64 aussi. Maintenant, le moteur tourne sur macOS, hein, avec les puces M1, M2, etc. Pas mal d'ajouts. Hein, donc, Flax Engine qui est gratuit, on va tester, qui a principalement voilà, destiné à faire des jeux 3D. Hein, et bon, je sais pas s'il fait la 2D, j'ai pas trop vu, mais en tout cas, il supporte bien la 3D. Bon, allez tester, je vous mettrai le lien si vous voulez voir. Il y a aussi l'UPBGE, donc c'est le Blender Game Engine, qui est en fait un peu le successeur au moteur de jeu qui avait le Game Engine qui avait le Blender Game Engine qui avait avant inclus dans le moteur de jeu qui a été enlevé à partir de la version 2.8 je crois qui en fait il y a des fans de ce moteur qui ont voulu continuer qui ont continué à développer donc c'est quelque chose qui est intégré à Blender donc si vous utilisez Blender vous serez pas dépaysé c'est vraiment un outil clé en main pour vous modéliser avec Blender, vous faites vos animés avec Blender, vous faites tout avec Blender et vous pouvez aussi faire votre jeu avec Blender. C'est un scripting où le scripting est fait en Python, vu que Blender le gère plutôt bien. Et il y a aussi une fonction un peu de programmation visuelle qui est disponible. Ça supporte uniquement le desktop, hein, essentiellement. Il n'y a pas vraiment de support mobile, etc. Donc vous pouvez faire des versions exécutables de vos jeux sur Windows, Mac, Linux. Donc voilà, c'est gratuit aussi. Vous pouvez aller tester ça, je mettrai le lien. Il y a également le moteur BV011 qui est sorti, qui est un moteur qui est fait avec le langage Rust. Il y a pas mal de. J'avais déjà couvert la version d'avant, je crois, sur un des podcasts précédents. Ici, cette version améliore vraiment les performances d'interface utilisateur, rajoute du Screen Space Ambient Occlusion, support du Web GPU aussi. Donc, il y a pas mal de nouveautés là, dans cette version du BVY 0.11. Voilà, à tester aussi. Sinon, un peu plus mainstream, donc je vais en parler un peu avant. C'est Unity qui a aussi lancé sa nouvelle version 2023.1, le TechStream, qui est disponible après avoir lancé la LTS 2022 il y a quelques temps, déjà quelques semaines ou mois. Maintenant, Unity annonce la 2023.1 en TechStream. Donc, je rappelle, hein, vous êtes sur une prod importante que vous voulez shipper, etc. Si vous êtes sur une prod un peu pro, Éviter les textreams, préférez vraiment les versions d'Unity LTS, hein, c'est les long term support. Au moins vous aurez pas trop de surprises sur les mises à jour de moteur ou vous savez que Unity va le supporter pendant longtemps et ça vous apportera moins de surprises sur votre développement plutôt que la textream qui est, où il y a des fonctionnalités un peu expérimentales qui risquent peut-être de disparaître ou d'être buggées ou de pas très bien marcher. Donc Unity a fait le choix de vraiment séparer ces deux versions, donc essayez de rester que sur des LTS sur vos prods pro. Après, si vous voulez vous amuser ou faire des petits projets, etc., à côté, moi souvent j'utilise cet extreme pour découvrir les nouveautés, faire des petits projets un peu voilà, à part qui n'ont pas impacté le projet en prod. Donc j'ai plusieurs versions d'Unity hein, sur ma machine, donc vous pouvez tester ça. Hein. Il y a le comme pour le reste, je mettrai le lien en note de l'émission de cette version. Ça améliore beaucoup le système d'eau. Apparemment, ils sont beaucoup focalisés sur la version d'eau. Il y a les meilleurs sons aussi un peu de tout ce qui est un peu peau, cheveux, le support de la puce ARM pour Windows. Donc ça veut dire normalement que toutes les tablettes ARM, les Surface Go, des choses comme ça, je pense, pourront faire tourner Unity maintenant. Il y a aussi l'introduction là, c'est très expérimental, mais du networking, du jeu en réseau, enfin des développements en réseau, l'ajout de la connectivité networking qui s'avait un peu enlevé, qui était présent avant dans Unity, qui revient là tout doucement avec UTP qui permet de faire du networking low level et du MPPM qui permet de simuler du networking multijoueur en local sur sa machine. Voilà, il y a des fonctionnalités intéressantes à tester si vous êtes curieux, avec le risque évidemment avec cet extreme, comme je vous disais, que ces fonctionnalités disparaissent à un moment donné sur les prochaines updates ou les prochaines mises à jour, et surtout que ça ne marche pas correctement comme vous voulez. Petit disclaimer si vous testez ces versions d'Unity. Alors, pour finir, petite news d'un témoignage sur le blog de Unreal Engine. Moi, j'adore ces témoignages parce qu'à chaque fois que je les lis, chaque fois que je regarde, j'ai envie de plus me plonger sur le moteur Unreal. Unreal Engine, c'est vraiment, ils sont très forts sur le marketing et sur le fait de donner vraiment envie de tester leur moteur. Donc, il y a Epic hein, qui a publié un article sur le blog de Unreal Engine qui parle du studio de Embers. Qui est un studio français d'ailleurs, j'ai découvert ça en lisant l'article, qui est basé à Strasbourg, qui est en fait un petit studio de 9 personnes qui avaient l'habitude de travailler surtout sur des jeux mobiles et surtout avec le moteur Unity. Et ils ont commencé à faire un jeu qui s'appelle Strayed Lights, qui est leur premier jeu du studio, hein, même s'ils avaient pour la plupart des fondateurs et de l'équipe l'expérience avec Unity, ils ont décidé pour ce premier jeu d'aller sur Unreal Engine, notamment parce qu'ils ont obtenu le Mega Grant de Epic. Donc le Mega Grant, c'est une aide financière et soutien d'Epic Games pour développer leur jeu. Et pour la seule condition, évidemment, qu'ils switchent sur le moteur du jeu Unreal Engine. Donc bon, Epic n'est pas non plus fou, hein, il ne faut pas que soutenir et financer des projets sur d'autres moteurs, quoi qu'ils pourraient, évidemment, mais ils essaient à maximum de pousser l'usage et l'adoption de Unreal Engine. Qui marche bien du coup avec ce système-là. Et du coup, l'équipe de Embers a développé Strayed Lights et il témoigne comment une petite équipe de 9 personnes a fait le choix d'utiliser Unreal Engine et tout ce que ça a apporté Unreal Engine pour le développement de leur jeu. Donc le jeu, ça, voilà, ils utilisent pas mal en fait, ils étaient vraiment focalisés sur l'aspect esthétique, hein, de rendre d'avoir un rendu très beau, très polish sur leur jeu et c'est ce que a permis d'être c'est ce qui a permis Unreal Engine à l'équipe quoi. Donc il y a pas mal de défis quand même qu'ils ont dû relever, il y a pas mal de difficultés et ce qui est intéressant c'est de voir justement leur retour d'expérience, ce post-mortem sur leur blog. Allez le lire, c'est très enrichissant et ça peut être vous donner l'envie de basculer du côté Unreal Engine si vous êtes sur un autre moteur actuellement et surtout bah, de voir un peu aussi l'impact que peut avoir l'obtention d'un Epic Mega Grant sur des petites équipes où le changement de moteur finalement n'était pas si catastrophique que ça pour eux parce qu'ils ont pu quand même sortir leur jeu. Le jeu est disponible de partout et là ils ont hâte de quand même, bah, ils ont hâte de voilà, ils veulent rester sur Unreal Engine et ils veulent aller sur du Unreal Engine 5 avec les nouveautés comme la Nit, l'Humain, etc. qu'ils ont, je pense, pas exploré sur leur jeu précédent vu que je crois qu'il était sur Unreal Engine 4. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir le retour d'usage des différentes équipes sur les différents moteurs et tout. Et donc ça nécessite, je pense que d'autres moteurs devraient s'inspirer de ça pour faire envie, pour donner envie aux autres développeurs de tester leur moteur. Donc, clairement, c'est des expériences, des retours d'expérience très intéressantes. Eh bien, c'est tout pour cette semaine en termes de news. Juste en aparté, le podcast a pris un peu de retard pour la publication sur YouTube, hein, l'épisode numéro 82. Je ne sais pas pourquoi. Mon système d'habitude, j'ai un workflow assez rodé pour publier automatiquement les podcasts quand ils sont pour les publier sur YouTube, mais le service ne fonctionne pas très bien. Donc, du coup, j'ai pu le faire à la main là aujourd'hui. Donc, il sera disponible sur YouTube, l'épisode 82. Aujourd'hui, en même temps que l'épisode 83 qui devrait sortir d'ici quelques jours. Donc voilà, bon, j'espère que ça ira pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, parce que mine de rien, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a plus en plus de gens. L'audience sur YouTube continue à grandir. Je me demande si ça va pas dépasser même l'audience sur podcast classique que j'ai sur les plateformes de podcast habituelles. Donc c'est assez drôle que voilà, YouTube finalement soit le plus c'est la plateforme qui va peut-être dominer en termes de podcast, alors que j'ai failli le laisser de côté il y a quelques temps. Donc voilà, l'épisode numéro 82 arrive sur YouTube assez vite, et puis l'épisode 83 va suivre bientôt. Sinon, vous pouvez évidemment nous retrouver partout, les coulisses du jeu, sur Twitter, sur YouTube, s'il y a un Substack, hein, qui est plus ou moins actif, mais comme je disais, il y a une newsletter Substack si vous voulez vous abonner, qui s'appelle Les 2 minutes du jeu, où j'essaye à chaque fois, enfin à chaque fois, en théorie tous les jours, de poster un peu des news sur qui seront après résumées dans le podcast, mais vous aurez accès aux news en avant-première sur le Substack. Tout ça, c'est gratuit, il n'y a rien de payant, il n'y a aucune barrière de paiement, aucun paywall, rien du tout, tout est accès libre. Donc profitez-en, et moi je vous dis à la semaine prochaine, bye!